pourquoi le monde soit sauvé, il faut qu'il y ait un juste qui sauve le monde, et pour qu'un juste sauve le monde, il doit, d'accord, souffrir. Plus il est juste, plus il doit souffrir. Et puis cet alibi, tranquille, de la part des théologiens, des religions rivales du judaïsme, que tout va très bien lorsqu'on massacre les juifs, puisque ça sauve le monde. Donc, ce que dit Maïmoni, c'est que c'est un apologue, mais un apologue incompréhensible. De Barim, c'est qui sont qui dit des choses qui sont qui embrasse le monde. Alors, lorsqu'on comprend ce que cet apologue veut dire, ça fait brûler le monde. J'avais presque pensé au feu crématoire. Deniba Rubo, Kushiot Gedolot. Mais à travers cet apologue, seront expliquées les grandes difficultés. Deniba Rumimani de Varim Amitim. Et seront enseignées des choses osées, chez le Marlamehem, au-delà desquelles il n'y a pas. Vehinani Maskir Echa Mashé Charveaski, je vais me borner, dit Maïmonide, à mentionner ce qu'il est possible de mentionner. Vaskir Echa Dure Chachamim. Et je citerai les paroles des sages. Hachef et Yerouni, Al-Kolma Shehavinoti, qui m'ont permis de comprendre ce que j'ai compris, mais auto, Hamashav, Haratsum, de cet apologue considéré. Véhiné, et voici. Réchit, Mash, et Nibbonen, Go. La première chose qu'il faut, à laquelle il faut prêter attention, qu'il faut comprendre. Amrou, c'est le fait que le texte dit, Ish, Haya, Beheret, Outz. Vivait un homme était dans le pays de Outz. Echel, le Shem, Ameshutav, Beouch, Outz. Le texte commence par désigner ce nom qui est attaché à cette histoire et qui est Hout. Le fils de Chef Adam est Hous Bechoro. Il faut savoir que ce n'est pas le nom d'un pays, c'est le nom d'un personnage de la Bible. C'est un nom d'homme. Le Hout, c'est mon propre. Le Hout, si vous, Bahashiva, Bidinout, Hout, etc. Et c'est une indication qui nous est donnée de comprendre dans le sens de l'expression Hout, etc. Réfléchissez. Premier conseil, c'est une citation de notre verset pour nous donner le sens du terme. La Hetza, dont nous avons parlé tout à l'heure, ça veut dire que, de la même manière, s'il est qu'il y a des enseignements qui sont situés au pays de l'utopie, alors ici, cet enseignement serait situé au pays de Houtz, c'est-à-dire au pays des gens qui réfléchissent. Mais à peu près dans quel sens Maïmonide explique. Le Rinou de Marlecha, et c'est comme si. Le texte voulait t'indiquer, à te dire, te suggérer, Hachem et Machalze, de réfléchir à cet apologue, Véhit Bonendo, réfléchis à cela, comprends, Veda Inyano, comprends ce qu'il veut t'enseigner, Véhabel, et comprends, Hachkafa Mechona et Zoé, laquelle des considérations, des explications de ce problème, la souffrance du juste, est la plus authentique. Véharkar, et après cela, le texte dit que, donc la première notion, je crois, est claire. Ça veut dire qu'on veut tout de suite nous avertir qu'il y a quelque chose à comprendre. Deuxième indication. Le texte dit qu'il bénit Elohim, Baou, et Kasser, Alachem. Qu'il y a eu, vous vous rappelez du prologue du livre de Job. Donc le jour est arrivé où les anges se réunissent en conseil autour de Dieu pour juger la terre. D'après certains midrashim, ce jour-là, c'était le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement. Et ce jour-là, tous les anges chargés de. Comment dire, de régir les phénomènes du monde, eh bien, sont rassemblés en tribunal. Ou Bara Satan Betokhan ou Bichlava. Et que le Satan, nous aurons donc à définir très attentivement, quelle est la fonction du Satan parmi les anges, le Satan vient avec eux. Les filles chez eux, Amar, mais alors, exégèse importante, nous dit Maïmonide, le verset ne dit pas, et Benéha Elohim, les anges, vers Satan et le Satan, sont venus, Baou, les Kiasser à la chaîne, pour se grouper, se tenir devant Dieu. Et alors là, nous comprendrions que le Satan fait partie au même titre que tous les autres anges du monde des anges, et je reviendrai sur la définition. Chez Aïtana, Aset, Metsil, Tako, les filles à Rasehad, à ce moment-là, nous aurons une même définition de tous les anges, le Satan y compris, si l'expression avait été, les anges et le Satan sont venus se rassembler. Mais le texte dit autrement. Et là, non, parce que ce que dit le texte, « Vayavohu bené Elohim l'Ikiasev Hashem » les anges sont venus se rassembler autour de Dieu, « Vayavohu kam Satan betocham » et même le Satan est venu avec eux. ça veut dire que c'est contingent, le fait que le Satan soit là. C'est pas nécessaire qu'il soit toujours parmi les anges. Il est d'une autre catégorie, si vous voulez. C'est clair? Et nous verrons comment l'analyste va utiliser cette remarque. Le Tzurat Dibourzou et l'Annemra et la Béni Sheba Vélo Matara le Hatsmo Vélo Daouch Nechamat Rasmo. Cette manière de s'exprimer n'indique pas du tout que, de façon essentielle, le Satan fait partie au même titre et au même niveau que tous les anges. Et la Tiva Shenochar Misha Matara Nochechut Kurbazé Mikla Misheba. Mais c'est par le fait que ce jour-là, cette fois-ci, et il était nécessaire que le Satan soit avec les autres anges, que le Satan est venu. Et tout de suite, on nous apprend que le Satan n'est pas dans le ciel, mais qu'il est sur terre, dans le texte du prologue du livre de Job. Quand le Satan vient parmi les anges, Dieu lui demande d'où tu viens. Il dit, je viens de mes randonnées sur terre. Alors, Maïmonide nous dit, fais bien attention. Tout de suite, nous comprenons que le Satan fait partie des forces du monde. Alors que les anges dont on parle sont, si vous voulez, je garde ce vocabulaire provisoirement, sont un tout autre niveau, au niveau du monde céleste. Il n'y a aucun rapport d'identité entre le Satan qui fait partie des êtres du monde humain, si vous voulez, du monde terrien, si j'ose dire, et on va, qui est ce personnage, qui est cette force, avec les êtres d'en haut. Et ça veut dire que là où se trouve son domaine, c'est la terre, et non pas le ciel. Après, le texte dit que cet homme droit, que ce tzadik, que ce juste, est livré entre les mains du Satan. Et que tout ce qui arrive à Job, cet homme juste, la cause en est le Satan. Déjà, il faut mettre en évidence le sens de cette remarque qui n'est pas encore achevée. Maintenant, il veut nous faire comprendre déjà qu'une des erreurs fondamentales qui fausse toute la perspective de compréhension de ce problème dans le livre de Job, c'est de croire que les souffrances de Job viennent de Dieu, alors qu'elles viennent du Satan. Et que le Satan n'est pas un de ces anges d'en haut, du conseil de Dieu en haut, mais une force de la terre. Et je voudrais quand même, si vous l'avez anticipé sur le plan de Maïmonide et expliqué que ce que Maïmonide nous dira, pourquoi il y a ce problème du scandale, de l'incompréhension de la souffrance du juste, c'est lorsqu'on on croit que cette souffrance vient de Dieu directement. En réalité, elle ne vient pas de Dieu, nous expliquera Maïmonide, elle vient des conditions de l'existence terrestre. Et elle ne fait pas partie de l'intention du Créateur pour la créature de façon directe. C'est-à-dire, lorsque l'on croit que c'est Dieu qui, si j'ose dire, s'amuse à jouer avec Job et le fait souffrir, alors le scandale est irrémédiable et il n'y a aucune justification possible. La contradiction est irrémédiable. Mais si on comprend que le texte lui-même va indiquer que ce Satan qui fait souffrir Job est une force du monde existentiel de l'homme et non pas un parmi les anges dans le sens de volonté du Créateur, alors déjà, nous avons la porte. S'ouvre à l'explication. Et peut-être que ce soir, on ne pourra pas aller jusqu'au bout du chapitre, mais au moins nous essaierons d'arriver à ce problème. Et lorsque Hanahazo, et lorsque on aura admis ce postulat, alors on comprendra d'où vient l'erreur de l'explication que Job lui-même donne de son problème et celle de ses amis, alors que moi, je le reproduirai pour les expliquer avec clarté, toutes ces considérations que les amis de Job ont eues d'après leur propre postulat, que c'est Dieu qui fait souffrir Job, de parachazo, d'acherayasi, batakula, satan, alors qu'en réalité, la cause directe et immédiate des souffrances de Job, c'est le satan, et c'est à la volonté de Dieu. Or tous avaient cru comprendre, tant Job que ses amis, qui Hachem à sa zote, que c'est Dieu lui-même qui faisait cela, par lui-même, l'obéim saout à Satan, et pas à travers le Satan. Alors, ici, une explication est déjà nécessaire. Vous comprenez au moins déjà formellement le principe d'explication de Maïmonide. Si les souffrances de Job viennent directement de Dieu, il n'y a pas de solution. On est renvoyé à cette incompréhension indignée et de Job et de ses amis, et les différentes explications qui vont tenter d'être données. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a en aucun cas dans le texte de dire que c'est Dieu qui fait souffrir Job, c'est le Satan. Et qu'est-ce que c'est que ce Satan? Je ne sais pas si nous y arriverons déjà ce soir, j'ai même envie de la citer, une opinion de Talmud qui nous dit que le Satan, c'est le mauvais penchant qu'il y a en l'homme. Petite parenthèse, j'ai dit, et je continue à dire, le Satan, un Satan, et non pas Satan, comme nous avons dans la lecture, par exemple, chrétienne de la Bible. Satan, c'est quelqu'un, alors que le Satan, c'est pas quelqu'un. Vous voyez, il y a l'article, comme on dit, l'article qui montre que c'est une réalité, mais ce n'est pas, il n'y a pas un anti-Dieu qui serait le diable face à Dieu, le diable, Satan, mais il y a une réalité qui fait partie des conditions de l'être du monde, mais qui n'est pas quelqu'un. Et une de ses opinions, c'est de dire, et nous l'avons en effet par la suite, le Satan, c'est le mauvais penchant qu'il y a en l'homme. Il y a dans les conditions d'existence de la créature une force qui a sa nécessité propre et qui, elle, est la cause immédiate de la souffrance, en particulier du juste. Ce n'est que c'est rare, ce penchant au mal, c'est la condition de notre existence comme créature, c'est notre autonomie de créature qui nous est nécessaire et qui nous sépare de Dieu, de telle sorte de pouvoir exister par soi-même, c'est la source de tout mal en nous, mais cette source de tout mal en nous a une finalité ontologique pour que nous existions différents de Dieu comme créature et pour que nous ayons en nous l'appétit de recevoir l'être qui vient du Créateur, et c'est cet appétit de recevoir l'être qui finalement travaille en nous et nous met dans la condition existentielle dont une des dimensions particulières est la souffrance. Tant que l'on n'a pas mérité d'être, alors l'exigence d'être entraîne la souffrance. C'est une force qui est immanente à la créature, le Yetzirah à Satan, à nous, à Yetzirah, et qui n'est pas la volonté de Dieu lui-même. Nous sommes rejetés en dehors de toute cette imagerie fictive du pastiche de la Bible que l'on connaît dans la civilisation occidentale, et que Dieu est un être tout puissant, mais qui va pousser le mystère du caprice jusqu'à mettre à l'épreuve les créatures gratuitement, d'où ce scandale qu'un juste, parce qu'il est juste, doit souffrir, parce que par définition, il doit être mis à l'épreuve par Dieu. Vous voyez comment même lui, intentionnellement, va nous écarter cette vision des choses, de telle sorte ensuite de pouvoir la récupérer d'une certaine manière, mais d'abord d'évacuer l'idée de l'injustice de ce problème. L'idée de l'injustice serait irrémédiable si le texte avait dit que c'est Dieu qui fait souffrir Job. Mais c'est tout à fait autre chose. Dieu donne la possibilité au Satan de mettre à l'épreuve Job. Deuxième note de Maïmonide. « Vayoter mouflé, c'est à moi. » Et la chose encore la plus extraordinaire, « Becholaché et l'Azou » dans toute cette question, « Chevoti eretino behochma » c'est que le texte ne nous dit pas que Job est sage. Comment dire, « Hacham » sage, pas ici dans le sens moral de ce terme. La sagesse dans le sens d'être raisonnable, être sage, mais dans le sens d'être capable de comprendre. Chacham. On ne nous dit pas que Job était un Talmid Chacham. C'est très important, dit Maïmonide. Il nous fait faire une découverte très, très importante. Pourquoi Job ne comprend pas ce qui se passe pour lui? C'est parce qu'il n'est pas Talmid Chacham. S'il était Talmid Chacham, il comprendrait. Alors, de quoi s'agit-il? Velo Amarish Chacham, Omeli Nomaskil. Le texte ne nous dit pas qu'il était sage ou intelligent, ou masquille aussi intelligent, si vous voulez. Et là, Ta'arou de Ma'ala Midotit. Le Yosher Maasim, nous le définit dans une catégorie morale. Il est intègre, il est juste, il est parfait dans, au niveau de la qualité morale. On ne nous dit pas qu'il est capable de comprendre, qu'il est Talmid Chacham. Kiyu haya Chacham, lo haya inyano kashe ala kemoshe ibaer. Parce que s'il était Talmid Chacham, sa souffrance ne lui aurait pas été insupportable. Et en quoi? Ici, nous sommes très proches d'une explication qui serait parallèle à la position stoïcienne, des stoïciens du problème, c'est-à-dire d'une certaine manière de comprendre l'ordre des choses, évacuer le caractère fragile de la souffrance. Mais avant d'y arriver plus en détail, je voudrais vous dire malgré tout comment Maïmonide entend ce problème. Où est l'erreur de sagesse de Job? ce qui fait que sa souffrance nous paraît insupportable parce qu'incompréhensible. Maintenant, ils vont dire une chose très difficile à comprendre, mais c'est ça son chidouche, c'est là l'explication originelle aussi qu'il nous donne. Il nous dit, l'erreur de Job, c'est de croire que ses souffrances étaient vraiment des souffrances. Et cela était vraiment des souffrances. Que des issourines qui portent sur des biens physiques, fussent la relation aux enfants, sont vraiment des épreuves. Et étant donné qu'il croit que le bien, c'est la jouissance au niveau de l'avoir, alors lorsque l'avoir est atteint, il croit qu'il y a là véritablement des épreuves irrémédiables. Il n'a pas compris que le véritable bonheur ne porte pas à ce niveau-là, que par conséquent, lorsque le chaos du monde atteint ces choses-là, il n'y a aucun scandale, parce que ce n'est pas ça le vrai bonheur. Donc, je vous dis la thèse très rapidement, et il est bien évident que c'est une thèse difficile à comprendre, mais nous essayons quand même de la comprendre. Et il s'agit de faire une analyse du véritable bonheur. Et si Job était un chacham, on aurait compris que ces souffrances ne sont pas scandaleuses, parce qu'elles ne portent que sur des choses éphémères, que sur de l'avoir. Que ce soit les richesses et les jouissances que les richesses donnent, que ce soit les enfants, que ce soit la santé physique. Et il nous dit Maïmonide tranquillement, il nous dit là une chose énorme, bah, tout ça, ça n'a pas d'importance. Donc il n'y a pas de problème. Et où était, si vous voulez, le scandale de Job prenant conscience de lui-même? Il était dans une erreur de diagnostic, il n'était pas Tamil Chacham. S'il était Tamil Chacham, il aurait compris que, comme on disait en juif de Rava, Mahalesh, ça n'a pas d'importance tout ça. Et évidemment, nous découvrons là une thèse extrêmement importante, mais difficile à comprendre. Alors nous y arriverons d'ailleurs assez rapidement. Avant d'aller plus loin, vous avez une question, très rapidement. Oui. Comment? Au contraire, parce que ce que promet les psaumes, c'est la béatitude des véritables biens, des biens spirituels. Et l'erreur consiste à entendre ces choses-là au niveau de l'approximation matérielle que représente la jouissance. Et avant d'aller plus loin, si vous voulez, peut-être je conclurai la première analyse ce soir ici. Je ne sais pas si on arrivera à boucler tout le programme. Écoutez, si on ne termine pas la première semaine, je déborderai sur la deuxième semaine. Quand même, ce sont des textes importants à comprendre en détail. Je vais vous dire comment, dans le chapitre 23, Maïmonide nous formule les tentatives d'explication qui sont données à ce problème, la souffrance du juste, par Job et par ses amis. Et tout ceci est à rattacher à cette remarque très féconde de Maïmonide que le texte nous a prévenu. Il ne s'agit pas d'un Talmud Chacham. Job peut être juif, il peut être non juif, mais il n'a pas la vraie connaissance. Alors il ne comprend pas pourquoi sa souffrance n'est pas du tout scandaleuse. Ce qui lui fait croire que sa souffrance est scandaleuse, tragique dans le sens grec, c'est qu'il y a une erreur de diagnostic. Qu'est-ce que sont les vraies épreuves? Et vous voyez comment le texte avait pris la précaution de nous dire que Dieu recommande à Satan, surtout ne touche pas l'intégrité de sa conscience, son nefesh, qui peut porter atteinte à tout ce qu'il a, mais pas à son être. Si effectivement il avait été porté atteinte à l'être, alors là, ça aurait été des épreuves incompréhensibles. Et on cherchait la culpabilité, on cherchait une explication. Lorsque la Gemara nous rappelle par des issourines, elle parle de deux catégories de issourim, les épreuves. Il y a soit des épreuves d'amour, soit des épreuves de châtiment. Et elle nous donne un critère pour diagnostiquer s'il s'agit d'une épreuve d'amour ou d'une épreuve de châtiment. Il dit, si il y a deux opinions, et nous verrons pourquoi les deux opinions sont nécessaires, si pendant l'épreuve, première opinion, on peut continuer à prier, alors c'est une épreuve d'amour, mais pas une épreuve de châtiment. Deuxième opinion, si pendant l'épreuve, on peut continuer à étudier, alors si c'est une épreuve d'amour, ce n'est pas une épreuve de châtiment. Mais l'épreuve d'amour se distingue par le fait que l'intégrité de la conscience n'est pas atteinte. La possession des biens spirituels n'est pas mise à l'épreuve ne porte pas là-dessus. Je reviens à la Gemara elle-même. Pourquoi ces deux opinions? Parce que pour certains, l'expérience spirituelle et la prière, plus que l'étude, pour d'autres, l'expérience spirituelle et l'étude, plus que la prière, en dominant, si vous voulez, ce que la Gemara doit nous donner les deux critères, mais c'est que les deux sont vrais. C'est-à-dire, si pendant l'épreuve, on peut encore être relié à Dieu par la prière, ou être relié à Dieu par l'étude de la Torah, de la révélation de sa volonté, alors c'est qu'il ne s'agit pas d'une épreuve de châtiment. L'épreuve de châtiment, inversement, est diagnostiquée par le fait qu'elle est un handicap de l'incapacité de prier ou d'étudier. Et on voit bien que Dieu dit au Satan, surtout pas de preuve de châtiment, épreuve d'amour, puisque il lui donne comme consigne ultime, ne touche pas à sa conscience. Tu peux toucher à tout ce qu'il a, les biens, les enfants, son corps, mais pas la présence de lui-même à lui-même. Et donc, déjà dans cette explication, nous voyons qu'il n'y a pas de culpabilité. Il ne s'agit pas d'une épreuve qui vient payer par châtiment, payer une faute par châtiment. Dans toute cette analyse jusqu'à présent, il y a quand même un point qui nous gêne. On comprend pour les possessions matérielles. On comprend même pour la santé physique, il reste vivant, mais la mort des enfants. Et depuis le début, cette question était en filigrane. Quand j'ai dit tout à l'heure, au début, dans l'introduction du début, que bien sûr, on veut rendre tout, mais ce n'est pas les mêmes enfants. À la rigueur, si vous voulez que le compte en banque soit perdu, mais qu'il y en ait un autre, ce n'est pas la même monnaie, là j'ai pas vu entre temps, mais c'est quand même de l'argent. Tout le reste, mais les enfants, ce n'est pas les mêmes. Et là, je me permettrai d'être un peu en désaccord avec M. Meyer que je vous ai cité tout à l'heure, un peu d'ailleurs. En ce sens qu'il aurait eu tendance à réintégrer la dimension tragique dans l'épilogue, en disant, bien sûr, mais regardez ce scandale, à quoi Dieu joue avec Job, bien sûr, ils ont des enfants, mais ce n'est pas les mêmes, et que la tragédie se réintègre là. Alors, vous devriez déjà aller un peu plus loin dans l'analyse. Sans, M. Meyer a fait, dans l'exposé auquel je me réfère, une référence explicite à ce que Job, c'est le peuple juif. Et nous sommes à l'anniversaire de la fameuse nuit de cristal où a commencé la grande persécution de la Shoah. Il restera dans l'histoire que c'est aussi l'anniversaire où l'ONU, à lundi 72, a voté ce que vous savez. Eh bien, 30 ans après. Et alors, il dit ceci, et voilà. La génération suivante, ça c'est l'épilogue, il y a de nouveau des enfants juifs. Et nous avons vécu un temps où on pouvait croire que tout était perdu, il y a 30 ans. Mais voilà que 30 ans après, tout ressuscite. Et, mais voilà, ce ne sont plus les mêmes enfants, et on portera toujours le deuil de ce qui ne reviendra plus jamais, c'est-à-dire ceux qui sont partis dans la fumée des camps. Eh bien, une des opinions de la Gemara, que même Maïmonide l'a citée, pour dire en quoi Job ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrive et pouvait craindre de croire que c'est l'irrémédiable du scandale tragique d'Afka, et c'est là que je cite M. Meyer, à cause du problème des enfants. C'est le fait de se rendre compte, la Gemara dit quelle était l'erreur de Job. Il était coffert du sujet à Métine. Il ne croyait pas à la résurrection des morts. Et là vous avez l'explication. Les Kabbalistes disent, en utilisant cela, un peu au-delà, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire qu'il y aura un monde à venir. Alors, je reprends cet épilogue. Bon, Dieu a rendu des enfants à Job, mais il y a le même scandale, parce que ces enfants que Dieu a rendus à Job, ils vont aussi mourir. Et alors, de deux choses, ou bien après la mort, c'est fini, et tout est scandaleux. Ou bien, après la mort, il y a le monde de la résurrection et le monde à venir, et à ce moment-là, quelles que soient les circonstances, ou le temps de l'époque de l'histoire de ce monde-ci, où la mort est apparue, tous deviennent, et les premiers enfants, et les deuxièmes. Donc le tragique est complètement évacué, à condition que Job comprenne que ce monde-ci mène à un monde à venir. S'il n'y a pas de l'oral là-bas, les deuxièmes enfants aussi, c'est le même scandale que les premiers, puisqu'ils vont aussi mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les premiers enfants sont morts, apparemment injustement, mais les deuxièmes enfants aussi sont morts. Et pourquoi ce serait moins injuste qu'ils meurent de vieillesse ou qu'ils meurent de maladie? C'est parce qu'il s'agit du problème de la destinée humaine. Si après la mort c'est fini, eh bien, quelle que soit la forme de la mort, il y a le même scandale. Et mourir dans son lit, c'est pas moins scandaleux que partir en fumée. Si après la mort il y a rien. Mais si après ce monde-ci, il y a le monde à venir de la rétribution, alors à ce moment-là, il n'y a plus aucun scandale. Sinon, de comprendre le chaos du monde qui fait que le sort peut risquer d'apparaître une contradictoire. Avec le mérite. Et c'est là que l'explication de Maïmonide reprendra sa force. Il y a dans les constituants du chaos du monde une force qui joue et qui fait que le sort de l'individu semble incompréhensible par rapport à l'enseignement de la Torah, que l'individu a un sort suivant son mérite. C'est le Rav Kook, en fin de compte, qui a été le premier à donner de la façon la plus claire l'explication de ce problème, il faut se relier à la récapitulation au niveau de l'être collectif. Lorsqu'on isole le sort de l'individu, de la collectivité, on ne comprend plus rien dans les rapports entre le mérite et l'être. Mais lorsque c'est relié au sort du clan, de la collectivité, alors il y a compensation ontologique. Mais à une condition, c'est de rester dans cette ligne de l'enseignement de la Gomara que je viens de vous citer, c'est que ce monde-ci mène quelque part. Je pense que c'était suffisamment clair. C'est-à-dire, si après ce monde-ci, il n'y a rien, même la mort des deuxièmes enfants est aussi scandaleuse que celle des premières. Et par conséquent, je crois qu'il faut bien comprendre que, par là, nous évacuons définitivement la dimension de tragique du livre de Job. Même cette dimension que voulait mettre en évidence M. Meir, qui est que, bien sûr, il a de nouveau eu des enfants, mais c'est pas le même. Si Job ressuscite dans le monde à venir avec tous ceux qui ont vécu l'histoire de ce monde-ci, eh bien, il retrouvera et les premiers et les derniers, si je dis. Et il s'apercevra que les premiers étaient les derniers. Oui. Ah ben, pas tous à la fois, oui. Mais si vous voulez, j'en parlerai. Je traiterai de cela. En ce sens que, où est le scandale? C'est dans la souffrance de maintenant. Quand est-ce que la souffrance est scandaleuse? Quand je suis en train de souffrir. C'est dans le contemporain de la souffrance que la souffrance est scandaleuse. Alors comprenez bien une chose. C'est que s'il n'y a rien après la mort, eh bien, toute la vie est scandaleuse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le point précis de notre problème. C'est qu'il ne semble pas y avoir de relation entre le mérite et le sort des hommes. Alors nous parlons de ce problème. Mais je veux revenir au chidouche de l'harmonie du maître. L'harmonie nous dit ceci. Première erreur de Job, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'est pas touché sur des vrais biens. Il n'est pas éprouvé sur des vraies épreuves. Et si vous voulez, Job nous apparaît comme un homme qui ne voit que l'aspect matériel de ce qui donne le bien. Et alors, lorsque c'est l'aspect matériel qui est touché, il croit que c'est son bien qui est touché. Nous n'en avons plus déjà qu'il n'en est rien. Il faut pas arriver à réidentifier cela. Mais deuxièmement, je parlais du problème des enfants. Cette première explication était acceptable, sauf la question des enfants. Le fait que, bien sûr, Job a de nouveau des enfants, mais c'est pas le même. Alors là, il y a une perte irrémédiable. Mais parce qu'on oublie que l'enseignement de la Bible se trouve dans la cohérence que ce monde-ci mène au monde à venir. Et dans le monde à venir, Job retrouve ses enfants et c'est les mêmes. Je pense que c'est clair. Ce scandale que ce n'est pas les mêmes enfants ne vient que s'il n'y a rien après la mort. Ouais, j'ai dit ça un peu enfantine, de façon un peu enfantine, mais vous comprenez, on l'a pas. Et par conséquent, il est bien évident que la dimension du tragique est évacuée. Et cette dimension du tragique, elle est, vous savez que c'est la notion de Asher Halchou et Olamam, les Kiddush Hashem. Ils sont allés dans leur monde dans une occasion de sanctification du monde, ce qui est la sanctification de leur mort. La question est de savoir pourquoi ils sont allés à leur monde en passant par ces épreuves-là. Mais de ça, nous aurons à parler, si vous voulez. Mais je vous dis, la véritable injustice ne serait pas la façon de mourir, mais le fait de mourir. Et s'il n'y avait pas de Olama. C'est-à-dire, lorsque nous disons d'un homme qu'il est mort, c'est une façon de parler. La mort, ça n'existe pas. Il y a changement de vêtements. Mais quand vous comprenez les choses au niveau où elles sont, dans l'enseignement biblique, c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, les rites de deuil ne sont pas midoraita, ils sont midorabanan. Il n'y a aucune allusion mitzvot de la pratique du deuil dans Torah Moshe, parce qu'il n'y a pas de mort. Banim, Atoem, Lachem et Lokechem. Vous êtes les enfants du Dieu vivant. Il n'y a pas de mort. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un épisode qui s'appelle l'enterrement, et puis de deux choses, ou je crois que c'est fini, il n'y a rien après, ou je crois qu'il y a Olam Haba. Si je crois qu'il y a Olam Haba, la mort, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il est interdit, d'après Shulchan Aruch, de pleurer à côté d'un mort. Parce que ça veut dire que vous croyez qu'il est mort. Alors, je pense que c'est clair. Et que c'est une insolence inouïe. de pleurer à côté d'un mort. Ça veut dire, vous lui dites, tu es mort. Je vais mourir, il n'y a rien après. À quoi me sert la vie? Eh bien, à partir de ce moment-là, ça risque de devenir scandaleux. Alors, je crois que c'est un moment important. Je voudrais bien du problème, je voudrais bien le formuler avant d'arriver à la conclusion. C'est que, première erreur de Job, il a pris au sérieux les épreuves matérielles. Deuxième erreur de Job, qu'il ne faut pas faire, c'est de croire que tout se passe dans cette vie. Si tout se passe dans cette vie, rien n'est compréhensible. Et tout est scandaleux. Enfin, je veux dire, très simplement, si la mort, c'est la mort de Barim Kipchutam, alors toute la vie est scandaleuse. Et je ne pense pas que... Au fond, c'est ça la définition de la foi juive. C'est un optimisme absolu. Et ça commence par là. Que la vie ne serait pas la mort. Que ce serait un monde complètement incompréhensible. Non, mais je ne vous dis pas ça simplement comme découverte du problème. C'est la conséquence de millénaires de réflexion de la sagesse juive. Que ça va de soi, que ce monde-ci mène à un monde qui vient, que Olam Hazé mène à Olam Haba. Si je comprends ce qu'est ce monde-ci, et la finalité de la durée, et des engendrements dans la durée, et de l'effort d'être, et de ce qui se passe dans l'histoire, et de ce qui se passe à travers la durée du temps, et de la permanence d'Israël, qui donne un sens à l'histoire de l'humanité tout entière, eh bien, alors je comprends que ce monde-ci mène quelque part. Et ça c'est aussi à rattacher à la marquette qu'il y a dans la Gemara. Est-ce que Job était juif ou non juif? Ça veut dire, est-ce qu'il savait qu'il y a un autre monde ou pas? Aussi, de ce point de vue. Alors, je voulais surtout revenir à la question des enfants. C'est que c'est une erreur de croire que Job n'a pas retrouvé les enfants qu'il avait perdus. Il les retrouve dans la perspective du monde à venir. Et il s'aperçoit que les derniers étaient les premiers. C'était les mêmes sous une autre apparence. Et ça se récapitulera. D'ailleurs, vous verrez bien, quand on y sera, que c'est comme ça que c'est. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je veux aborder immédiatement les différents... Oui, écoutez, comme on y est pas encore été... Non, la vérité, je ne sais pas. Mais, dites-moi, est-ce que ça a beaucoup d'importance de savoir comment ça va se passer, ou bien ce qui est important de savoir, c'est si ça va se passer? Comment ça va se passer, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas un problème. Peu importe. Vous savez, tout cet enseignement se trouve dans le 11e chapitre de la Gemara Sanhedrin, dans Perek Chelek. Et je pourrais vous énumérer 1000 questions. Si, par exemple, un homme a eu plusieurs femmes dans sa vie, avec laquelle il restitue, on verra bien. Pardon ? Quel verset? Non, il est possible qu'il cite, là vous savez, dans l'Ecclésiaste, il cite les opinions qu'il combat. Il est possible que vous citez les opinions que Kohelet combat. Hein? Non, non, c'est une hypothèse de l'intelligence humaine. C'est l'hypothèse des Ahus. Nous avons étudié ça ce matin encore au Sidra. Esav dit, Hineni, Roler, la Mout, la Malim, Chora. Pourquoi il a donné l'aînesse, la Bechora, à Jacob? Je dis, à quoi ça me sert, ça, d'être aîné? Puisqu'après la mort, quand on est mort, on est fini. Ça, c'est Esaü. Hein? Vous voyez, cette expérience du monde, que le monde n'est qu'une tombe. C'est Goy, ça. Je pense que c'est clair. L'optimisme de l'identité juive, hébraïque, c'est de savoir que le monde est un berceau, c'est pas une tombe. Le monde, c'est un endroit où on est, pas où on meurt. Et on voit bien qu'on meurt. Eh bien, on change de costume aussi un jour. D'accord? C'est un incident. Enfin, c'est intentionnellement que je l'exprime de cette manière. Pour la sagesse juive, ça fait pas de problème, c'est pas un problème sérieux, ça, de croire que la mort, c'est la mort. Ça, il faut être goy pour croire ça. Oui. Non, pas puisqu'on est là. Eux-mêmes, eux, sont encore vivants.
Oui,
quelque part ailleurs.
Ils sont encore vivants et nous, on est là. Ce n'est pas les mêmes enfants, mais les autres enfants.
Oui.
Alors, il faut essayer de les interroger. Je ne sais pas si on peut dire tout ça.
Je n'ai pas dit ça. Le fait que ça soit passé comme ça, c'est un scandale de l'histoire du monde. Et on cherchera, si vous estimez qu'on en parle, je ne sais pas si on est déjà assez loin de l'événement pour avoir le droit d'en parler. Mais il faudra chercher les responsabilités. Ce qui s'est passé là sera payé par les responsables. Et il s'est passé du mal. Mais le fait que ces êtres ont disparu, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu. C'est ça que je veux dire. Qu'on ne les retrouvera. C'est sur ce point que je voulais expliquer. Le fait que ce soit passé comme ça s'est passé, c'est un scandale avec un grand S. C'est un scandale monumental. Et si la question se pose à nous de savoir qui est responsable, tout ce que la Torah peut dire, c'est pas Dieu qui est responsable. Et peut-être vous aurez la surprise de comprendre un jour que c'est pas non plus seulement l'égoïsme, ce sont les juifs aussi. Bon, mais nous verrons ça un peu plus en détail. Bien, je dis pas seulement, mais ils le sont responsables. Oui, encore une question, si vous voulez, je voudrais arriver à la conclusion. Oui. Vous revenez à l'analyse précédente. Écoutez, par rapport à un jugement que l'on ferait rapporté à lui-même, et là le texte est très clair, c'est un blasphème, c'est Dieu qui le dit, de supposer que Job avait fait des fautes. Puisque le texte dit que non, qu'il n'a fait aucune faute. Et Job, lorsqu'il se plaint indigné à ses amis théologiens qui l'expliquent, tu sais, peut-être qu'il a fait des fautes, alors tu payes tes fautes, il dit, vous n'avez pas le droit de me dire ça, je sais que je n'ai pas fait de faute, je sais que je ne suis pas... qu'on ne peut pas m'accuser de ce que vous m'accusez. Il se connaît comme juste. Et à la limite, c'est dans le Perit Tzadik, c'est surtout enseigné, dans l'Antique Kata Tzadik du Perit Tzadik, que c'est ça innocente tous les hommes. Tous les hommes qui croient que la difficulté de la vie vient payer les fautes, tout ça c'est une illusion. Qu'au jugement dernier, l'homme se saura, connaîtra qu'il a toujours été innocent à travers l'histoire. Et c'est pour cela que le jugement dernier tarde, selon une tradition des kabbalistes, Dieu attend de pouvoir être sûr qu'effectivement tout le monde peut être sauvé. Alors à ce moment-là seulement il fera le jugement dernier, sinon il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Vous comprenez quel est le thème qu'il y a là? Ça veut dire qu'il y a une patience absolue qui se dévoile, et le jour où il se dévoilera que l'humanité mérite d'exister, à ce moment-là on fera le jugement. Mais j'ai fait allusion à cette faute d'être. Alors ça évacue le tragique. Vous voyez, c'est une chose qu'il faut arriver à identifier. Lorsque, si vous voyez, comme véhicule de l'être, on n'est pas à la hauteur de l'être qu'on reçoit, la bénédiction qui consiste à recevoir l'être se transforme en malédiction. Et où est la faute? Il n'y a pas de faute. On n'est pas encore au point. C'est pas une question de culpabilité dans le sens d'avoir fait une faute. C'est une question de qu'on est encore d'authenticité. On n'est encore que approximatif de ce que l'on doit être. Mais on n'a pas fait de faute. On n'a pas violé de valeur. On n'est pas à la hauteur. Et ne pas être à la hauteur, et tout en étant donné à cette hauteur, ça fait souffrir. Mais c'est une souffrance qui ne vient pas punir de faute. Qui est un appel à un dépassement, si vous voulez. J'aime pas ces expressions trop littéraires. Enfin, il y a de ça. C'est un appel au dépassement. Mais c'est pas une punition. Bien, alors je voudrais, si vous voulez, mais très rapidement, parce que, oui. Plus fort? Mais évidemment que non. Bien sûr. Non, c'est pas parce que l'homme ne croit pas qu'il n'y a pas de monde à venir qu'il n'y en a pas pour lui. Il a dit une bêtise. Mais c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas parce que un hérétique ne croit pas à la résurrection des morts qu'il ne ressuscitera pas. C'est une chose trop importante, le sens de la vie des hommes, pour que Dieu tienne compte de bêtises que des gens disent. Ils pensent, ils croient qu'ils pensent. Bon, il a dit une bêtise, pas plus. C'est ce qu'on a dit dès le début du Périphérique, du chapitre 11 de Saint-Évrim. Il ne suffit pas que quelqu'un dise « je crois pas qu'il y a pas de monde à venir » pour qu'il n'y en ait pas. Il faut être un peu sérieux. ça dépend pas de ce qu'il croit. Là, nous parlons de l'option optimiste. Israël sait par expérience spirituelle que c'est ainsi qu'est le monde, un monde qui mène quelque part. Le fait de craindre, de croire que ça mène nulle part, ça c'est le pessimisme d'Ésaü, n'est-ce pas? Mais Jacob, qui est donné à la vie, sait où il va. Et quelle est la question? La question est la suivante. La Gemara se demande pourquoi la Torah ne fait pas allusion à ça, qu'il y a un monde à venir. Oui. Et des gens qui prennent la Torah à la lettre, les Sadducéens, hein, ont affirmé qu'il n'y a pas de monde à venir puisque la Torah n'en parle pas. Et, mais en fait, quel est le fond du problème? Ce qui serait inquiétant, c'est que la Torah va nous dire cela. Si elle va nous dire cela, c'est pas à nous qu'elle a parlé. La Torah ne s'adresse qu'à ceux qui vont au monde à venir pour leur donner le mode d'emploi. Si elle a premièrement à nous révéler, tu sais, il y a quelque part où aller, c'est pas à nous qu'elle parle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, la Torah n'a pas à nous dire qu'il y a un monde à venir. La Torah, c'est pas un catéchisme. La Torah, c'est la révélation à Israël qui va au monde à venir. Alors on lui donne le mode d'emploi. Voilà comment on y va sûrement. Mais si je sais pas où je vais, on n'a pas à me donner le viatique. On me donne le viatique, comme si je sais où je vais. Si on doit me dire, tu sais, il y a quelque part où aller, c'est que c'est pas moi qui y vais. Alors c'est Israël qui a pour charge de faire comprendre ça aux autres. Mais la Torah n'a pas à dire à Israël qu'il y a quelque part où aller. Il y va. C'est ça Israël, c'est celui qui va. Comment? Non, alors écoutez. Et ça veut dire qu'on est plus ou moins Israël. Je crois que c'est pas une chose où il faut croire. Il faut savoir. Il vaut mieux être sûr de croire. Si je veux. Ça veut dire qu'on est comme ça ou on n'est pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que je crois qu'il y a un monde à venir? Je sais, je vis comme ça. Oui. Écoutez, votre question ouvre une porte. Je veux dire ceci. J'ai le droit de douter si j'ai suffisamment de mérite pour y arriver. Mais qu'il y en ait un monde à venir, ça, c'est pas une question de croire. C'est plus qu'une intuition. Me connaissant moi-même, je me connais en marche vers quelque part où être, ça a un sens. Et l'inquiétude que je peux avoir, et c'est pourquoi il faut beaucoup de confiance, et Mouna, l'inquiétude que je peux avoir, c'est est-ce que je ne vais pas rater ce chemin? Est-ce que je ne vais pas échouer? Et alors, vous savez, la foi, et Mouna, c'est à la fois une certitude absolue, une incertitude absolue. Qu'il y a un monde à venir, je suis sûr. Est-ce que moi, je mériterai? Ça, je ne suis pas sûr. Mais vous voyez que la certitude ne porte pas sur l'existence du monde à venir. Un hébreu de bonne santé hébraïque sait que ce monde-ci, même quelque part, alors on est plus ou moins hébreu. C'est ça que vous vouliez dire. Alors soyez hébreu plus. Un peu plus hébreu, quoi. Bien, alors j'en arrive ici. Oui, mais rapidement. Eh oui, vous voyez, Jean. Et vous savez, il y en a beaucoup comme ça. Tout le monde des hommes. Mais des tzadikim qui ne sont pas des tzadikim. On les appelle tzadikim des NM. Ils sont tzadikim à leur propre Dieu. Il faut beaucoup d'humour pour être tzadikim. Et c'est ça la chorma. Comment? J'ai entendu le dernier des juifs, mais pas la phrase. Oui, vous avez raison. Le dernier des juifs, ça va un peu dans ce sens-là. C'est d'ailleurs le fait d'assumer l'absurde du salut du monde par la souffrance baptiste. C'est une projection de la vision chrétienne sur l'histoire d'Israël que Schwarzbach fait plus ou moins, quand même, malgré tout, judaïsé dans son style. Malgré tout, l'atmosphère du dernier des juifs est encore une atmosphère juive. L'atmosphère, en tout cas, pas le livre qu'il a écrit après. C'était un plat de porc aux bananes sucrées, si je me rappelle, ma chaise, allez où ça mène. Et là, mais Sorba, c'est un très bon juif, d'autre part. Vous savez, le personnage littéraire, c'est autre chose que ce qu'il est. J'ai le privilège d'avoir été un ami très proche de lui, comme nous étions ensemble étudiants à Paris. en même temps qu'avec l'invisible. On était la même bande. En tout cas, pour revenir au problème, je voudrais conclure brièvement l'analyse de ce soir en citant très rapidement comment Maïmonide, dans le chapitre 23, nous indique des systèmes d'explication. Alors, mais ce que nous avons vu jusqu'à présent était important, il fallait comprendre deux choses. C'est que la souffrance de Job ne vient pas de Dieu directement, et on aura à reprendre ce thème, et d'autre part, que Job ne fait pas haram, et c'est pourquoi il souffre tellement. S'il était haram, il serait arrivé à assumer son sort dans la vie de façon plus, disons, sereine. Souffrir, c'est toujours un scandale, mais au moins, sa souffrance n'aurait pas été tragique. Alors voilà, première explication de Maïmonide, le système de Job. Tout simplement, c'est ce que nous avons vu, Job considère que ce sont vraiment des épreuves. Et Maïmonide nous dit, voilà son erreur. Si Job comprenait que ce ne sont pas les épreuves graves, l'atteinte à l'intégrité de l'être, alors il aurait moins souffert. Ça nous ouvre une question gigantesque, l'existence de la folie. Et alors, donc, le scandale se réintègre dès qu'on découvre que, quand même, la souffrance de Job n'est pas scandaleuse, en fait, n'est pas tragique.